Monseigneur, vous avez bien voulu apporter le soutien de l'autorité diocésaine au projet Philanthropos, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Vous êtes membre d'un comité d'honneur et représenté au sein de notre comité de direction par le chancelier de l'évêché, M. Nicolas Bétichère, et au sein de notre commission des études par le père Jean Blaise Felet. C'est dire les liens étroits qui unissent notre institut à l'Église locale et à travers elle à l'Église universelle. À cet égard, la charte de notre institut affirme d'ailleurs sans équivoque, reconnaissant dans l'Église catholique une mère et une enseignante, mater et magistra, l'institut souhaite proposer ce capital immense de sagesse philosophique, théologique et mystique pour qu'il soit vivant au service de la personne humaine aujourd'hui. Par ailleurs, vous êtes philosophe et vous avez été professeur durant de nombreuses années. C'est autant de liens qui nous unissent et dont témoigne votre présence à nos côtés aujourd'hui.
Excellence Monseigneur le nonce apostolique à Berne, Mesdames et Messieurs les membres des autorités politiques et académiques venues de toute l'Europe, Mesdames et Messieurs les membres des autorités religieuses, politiques, universitaires, humanitaires et culturelles de ce pays, chers membres fondateurs de l'Institut Philanthropos, chers amis et étudiants, tout d'abord, laissez-moi vous dire, il est vrai, à quel point je suis heureux de saluer la création de cet institut. Et bien sûr, vous l'avez dit, ceci à la fois comme ancien prof de philosophie et à la fois comme évêque de ce diocèse. Et vous savez, vous vous êtes réclamé de la pensée de l'Église. En 1972, la Sacrée Congrégation de l'Éducation catholique envoyait à tous les évêques du monde un texte qui n'a pas perdu un iota de son actualité à propos de l'enseignement de la philosophie dans les séminaires. Et, ceci dit en passant, je ne peux m'empêcher d'y voir un petit clin d'œil de la Providence, puisque ce texte fondamental était ensuite publié dans la documentation catholique, précisément le 19 mars 1972. Permettez-moi de vous en citer quelques éléments. Les problèmes philosophiques les plus fondamentaux, je cite, « il est impossible d'en douter, se trouvent aujourd'hui plus que jamais au centre des préoccupations des hommes, au point même d'envahir tous les domaines de la culture. Littérature, romans, essais, poésie, théâtre, cinéma, radio, télévision et jusqu'à la chanson. On y trouve constamment évoqués les thèmes éternels de la pensée humaine, sens de la vie et de la mort, sens du bien et du mal, fondement des valeurs, dignités et droits de la personne humaine, confrontation des cultures et de leur patrimoine spirituel, scandale de la souffrance, de l'injustice, de l'oppression, de la violence, nature et loi de l'amour, ordre et désordre dans la nature, problème de l'éducation, de l'autorité, de la liberté, sens de l'histoire et du progrès, mystère de l'au-delà, et enfin, comme fond à tant de questions, Dieu, son existence, son caractère personnel et sa providence. Le programme est fait. Et je continue la citation. De telles questions ne sont pas propriétés privées du christianisme. Elles font partie du bien commun de l'humanité et appartiennent à la sphère propre de la philosophie qui s'applique à la réalité entière pour tâcher de la comprendre et de l'expliquer à la lumière des causes suprêmes pour en manifester la véritable valeur et le sens dernier. Tant que la réponse n'est pas donnée, et je continue de citer, tant que la réponse n'est pas donnée à ces interrogations fondamentales, la culture entière demeure en dessous de ses capacités, des capacités de réflexion de notre esprit. On peut donc affirmer que la philosophie possède, du point de vue de la culture, une valeur irremplaçable. Elle en est l'âme en tant qu'elle pose les questions qui concernent le sens des choses et de l'existence humaine d'une façon qui correspond complètement aux aspirations les plus intimes de l'homme. C'est pourquoi aussi l'adhésion bien comprise à la révélation divine ne peut être conçue comme un acte de foi aveugle, comme un comportement fidéiste dépourvu de tout motif rationnel. L'acte de foi suppose, de par sa nature, des raisons de croire, des motifs de crédibilité, lesquels sont en grande partie de nature philosophique. Connaissance de Dieu, idée de la création, providence, connaissance de l'homme en tant que personne libre et responsable. On peut dire que la moindre parole du Nouveau Testament suppose expressément ces notions philosophiques de base. Le croyant a donc besoin de la philosophie pour assurer à sa foi personnelle les fondements rationnels de valeurs scientifiques qui soient au niveau de sa culture intellectuelle. Fin de citation. Et Jésus, qui lui a le sens des synthèses, puisqu'il est la vérité, nous dit tout cela en quelques mots de feu. La vérité vous rendra libre. Mais vous le savez, la vérité ne peut libérer que si elle est authentiquement et plénièrement enseignée. Et il se trouve que pour nous, croyants, la vérité, ce n'est donc pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Dieu, c'est le Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour rendre hommage à un acte de courage. Ici, on a décidé d'enseigner cette vérité dans son intégralité, quand bien même ailleurs et en même temps, on décapite l'homme de sa dimension de transcendance, en s'étonnant en même temps de ne se retrouver ensuite qu'avec un cadavre nauséeux. Ici, on ose être à contre-courant d'un relativisme intellectuel contemporain qui passe pour un brevet de bonne manière. Eh bien non, chrétiens, nous refusons de hurler avec les loups et de danser les sauvages rites funèbres de certains modernes coupeurs de tête qui, comme Nietzsche, d'ailleurs, ne se consoleront jamais d'avoir tranché le lien qui reliait la terre et le soleil. Parce qu'à l'époque déjà, et cela ne fait qu'augmenter, s'élevait aussi la plainte de tant d'hommes et de femmes qui mouraient de soif au bord des fleuves d'éternité et qui, avec un certain Roger Garaudy à une certaine époque, nous suppliait « Chrétiens, rendez-nous Jésus-Christ ». Oui, ce n'est pas en criant que Dieu ou la transcendance n'existe pas qu'on en arrachera le secret instinct du cœur de l'homme, parce que l'homme n'en cessera pas moins, tout comme la fusée qui carbure au kérosène, de carburer au désir de Dieu. Si l'on veut enfermer l'homme dans la matérialité, il ne peut que se révolter et faire exploser cette chape de plomb qui l'oppresse, ou alors il étouffera en la plus noire des espérances. Et s'il ne peut tourner sa soif d'absolu et de beauté vers en haut, alors il la tournera vers en bas. Et nous n'y gagnerons vraiment rien, parce que sa soif de beauté, de justice, de vérité et même de fraternité caillera bien vite à l'aigre des fanatismes les plus exorbités et dont nous nous connaissons trop que les inéluctables et funestes fécondités de larmes, de souffrances et de morts. Comment voulez-vous fonder une fraternité universelle entre les humains si vous commencez par liquider l'unique paternité qui pouvait la fonder? Ainsi donc, par l'enseignement de la vérité anthropologique et métaphysique, vous avez décidé d'offrir ici, il s'agit ni plus ni moins que d'ouvrir les intelligences à la vérité totale, de nourrir l'inaliénable soif de spiritualité qui différencie l'homme de l'animal. Et cela n'est pas à option. L'alternative est aujourd'hui absolue et implacable. Il n'y a pas de tierce proposition possible. C'est la vérité totale ou l'absurdité radicale. Mais enseigner la vérité, si lumineuse soit-elle, ne suffit pas encore. Quand j'ai commencé à enseigner la philosophie dans les années 70, mon vieux maître vénéré, le cardinal Journet, m'avait dit, oh, avec ce ton inimitable, vous avez beaucoup de chance, c'est très beau d'enseigner la vérité, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il la rendre aimable. Il avait raison. Et dans le même temps, un vieux professeur qui prenait sa retraite nous avertissait, nous les jeunes enseignants, dans son petit discours d'adieu. Souvenez-vous, les petits loups, comme il aimait à nous appeler affectueusement, souvenez-vous, les petits loups, qu'il y a trois choses que vos élèves ne vous pardonneront jamais. C'est l'incompétence, le manque d'enthousiasme et l'ironie méchante. Ces deux phrases m'ont habité et ont illuminé toute ma vie d'enseignant. Tout Socrate était là. Et c'est aussi là que réside toute la différence entre un prof et un maître. Les jeunes en ont assez de professeurs qui leur bavardent la vérité, mais ils ont faim et soif de maîtres qui la vivent et qui amicalement la leur partagent. Alors, mes amis, offrez des maîtres à ceux qui fréquenteront cet institut et vous aurez gagné votre pari. Parce qu'un chrétien en est encore surmotivé, puisque pour lui l'enseignement de la vérité, comme toute activité qui embellit le cœur de l'homme, est aussi et d'abord œuvre de charité. Car c'est ainsi préparé pour la grâce un trône qui soit digne des splendeurs encore infiniment plus hautes et insoupçonnées qu'elle y déposera quand Dieu voudra, comme il voudra, mais aussitôt que la liberté humaine le lui permettra. Nous savons que votre tâche est difficile. Après le vague à l'âme du jeune Werther et le romantisme du cœur qui caractérisait, tourmentait, mais aussi fécondait le XIXe siècle, le XXe siècle s'est illustré par un romantisme beaucoup plus grave, le romantisme d'une intelligence qui s'est mise à douter d'elle-même. Peut-on seulement atteindre la vérité, le soupçon ? N'est-ce pas là une ambition trop haute pour l'homme ? Et voilà bien une belle et hypocrite humilité qui sait aussi ce qu'elle y gagne. Et c'est ainsi qu'on alla jusqu'à proclamer l'incapacité totale de l'intelligence à atteindre toute vérité de manière définitive. Pauvre intelligence, si maltraitée, et qui pourtant une seule fois au moins ne se tromperait pas, mais ce serait précisément quand elle affirme qu'elle se trompe toujours. Voilà bien aussi l'un des plus beaux fleurons de la sophistique qui a la cote aujourd'hui. Ici, on veut affirmer que cette tragique désinvolture face à la vérité, cette dévalorisation de l'intelligence, reste encore probablement aujourd'hui l'un des crimes suprêmes de lèse-humanité, puisqu'on voudrait par là faire croire à l'homme qu'il n'est fait que pour les choses de l'ici-bas du temps, et qu'ainsi donc, privé de toute transcendance, sa vie ne pourrait un jour que basculer dans l'horreur du trou noir, hypnotisé qu'il serait dès sa naissance par l'œil vide du néant. Alors, pour faire diversion, on s'est rabattu sur les techniques ou sur l'ordinateur. Superbe moyen en soi, mais qui, pour des intelligences insuffisamment critiques, devient lui-même un miroir aux alouettes qui donne l'illusion du savoir par la simple manipulation d'un objet qui sans doute fait plus vite que moi des opérations mathématiques, mais qui n'y prend aucun plaisir, puisqu'il n'est qu'une machine. Il faut donc aider nos contemporains à quitter leur complexe envers nos instruments et nous tourner résolument vers l'homme que doivent servir ces techniques. Car c'est d'abord en l'homme et en ses capacités d'intelligence et d'amour qu'il faut croire. Et c'est bien dans ce sens que la foi nous invite à la naissance de cet institut. Souvenons-nous d'Abraham, notre père dans la foi, et à juste titre. Il a cru en Dieu, certes, et c'est bien là son mérite. Mais pour cela, il fallait que Dieu lui-même, avant même de lui parler, manifeste d'abord à quel point lui-même il fait confiance à l'intelligence de l'homme et en sa capacité de recevoir sa vérité, au point de lui confier la révélation même de son existence, de sa nature et de son amour. Abraham a cru en Dieu parce que Dieu le premier a cru en l'homme, et pour cause, puisque c'est lui-même qui l'avait fait à son image, pour lui partager son amour. Et je vois en cette confiance de Dieu envers sa créature l'élément fondamental et la raison la plus haute de tout enseignement, car nous tenons là la révélation suprême de la dignité de la nature humaine dont saint Thomas lui-même nous dit qu'elle est naturellement capable de Dieu. J'ai commencé par mon maître, le cardinal Journet, je finirai aussi par lui. Tout à la fin de sa vie, ce même cardinal me confiait « J'ai cherché toute ma vie, je n'ai pas trouvé d'absurde. » Du mystère, oui, mais pas d'absurde. « Une religion que je comprendrais, disait-il, je n'en voudrais pas, parce qu'un homme pourrait l'avoir inventée. Mais une religion où il y a du mystère, pas d'absurde, et de la place pour l'intelligence, alors oui, j'y crois. » Et je n'ai pas souvent rencontré par la suite un regard aussi plein de lumière et de joie que celui qui se plantait ce jour-là dans mes yeux éblouis. Voilà aussi la seule position digne d'un homme du XXe siècle et de tout intellectuel, excusez-moi, qui mérite ce nom. Chers amis de Philanthropos, chers maîtres, vous qui collaborez, chers étudiants qui vous désaltérerez, l'évêque de ce diocèse n'a rien de plus beau à vous souhaiter que de vous offrir mutuellement, quotidiennement, ce même regard d'admiration face à la vérité, d'enthousiasme face à votre propre humanité, face capable d'infini, de reconnaissance envers un Dieu qui vous fait confiance au point de vous offrir sa propre vérité. La réalité de son amour, la générosité de son salut et la certitude vous sont offertes que votre soif un jour rencontrera rien de moins que l'océan même de sa propre vérité. Je vous remercie pour votre attention bienveillante en vous priant d'excuser ma grippe. Merci.